Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.
Infirmière, aide-soignante, assistante maternelle, femme de ménage, caissière, la crise sanitaire a mis en lumière l'importance des femmes dans les métiers du soin et de la vente. Essentielles durant les 8 semaines de confinement, l'OCDE souligne qu'elles sont plus exposées au virus car représentant 70% du personnel soignant et qu'elles effectuent la plus grosse part du travail domestique. Peut-on dire que les femmes sont en première ligne dans la crise provoquée par cette pandémie? Pour répondre à cette question, nous sommes en compagnie de Camille Froidevaux-Métry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, vous avez notamment publié La Révolution du Féminin chez Gallimard et Saint en quête d'une libération. C'est aux éditions Anamosa. Les femmes, Camille Froidevaux-Métry, ont été particulièrement exposées au virus. Qu'est-ce que cette période a permis de mettre en évidence selon vous?
Alors, la crise a fonctionné en fait comme un miroir grossissant qui est venu mettre en lumière un certain nombre de problématiques féministes, que ce soit du côté de la vie privée des femmes, dans la sphère domestique, mais aussi pour leur vie sociale et dans le monde du travail. Le point peut-être par lequel j'aimerais commencer, c'est cette question de la sphère domestique. Je dois ici faire mon mea culpa. J'avais cru au début du confinement que cette expérience serait peut-être une chance. Je me disais que tous les hommes soient ainsi contraints de rester à la maison pourrait peut-être provoquer chez eux une forme de prise de conscience, ne serait-ce que par l'observation de ce que représentent les charges domestiques pour les femmes. Eh bien, les premières enquêtes commencent d'être publiées et malheureusement, mes espoirs ont été douchés puisque les chiffres sont décidément têtus. Ce sont encore et toujours les femmes qui assument l'immense majorité des tâches domestiques. Une enquête récemment publiée aux États-Unis la semaine dernière a montré notamment que elles assumaient 70% des tâches. Donc ça, c'est d'ailleurs un taux qui est le taux habituel. Et quand on regarde un petit peu plus près les femmes qui ont continué de travailler à domicile, le taux baisse à peine à 67%. Et quand il y a des enfants de moins de 12 ans dans les familles, il monte et il grimpe même à 82%. Donc c'est un premier constat un petit peu affligeant, c'est-à-dire que les hommes ont certes été sur place en quelque sorte, j'ai du mal à imaginer aussi qu'ils n'aient pas été un peu sollicités par leurs compagnes, et pour autant ce sont toujours les femmes qui assurent l'essentiel des tâches.
Et précisément, donc rien n'aurait changé d'après vous durant cette période dans la sphère domestique, Camille Froidevaux-Métry?
Écoutez, j'aurais bien aimé que ce soit le cas, mais manifestement, ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Si on regarde, par exemple, cette nouvelle charge qui s'est ajoutée à toutes les autres, c'est-à-dire la charge éducative, là aussi, les chiffres sont édifiants. Les hommes déclarent être 45% à s'être occupés majoritairement de faire l'école à leurs enfants. Et les femmes, 80%. Donc, il y a un petit hiatus là qu'il faudrait essayer de comprendre. Ce que ça montre, en tout cas, c'est que les normes genrées, c'est-à-dire ces rôles que l'on apprend aux filles et qui font d'elles des futures femmes dévouées à la sphère familiale, ces normes genrées pèsent lourdement. Ça, c'est un premier facteur d'explication, c'est-à-dire que les hommes et les femmes ont intériorisé des rôles qui font notamment que à la maison, ce sont les femmes qui sont en charge prioritairement de la plupart des charges. Et puis, les hommes, eux, peuvent rester, par exemple, à travailler ou simplement à se contenter de, regarder le temps passé. Mais il y a un autre facteur qui est sans doute plus déterminant, comme l'ont montré certaines études récentes là aussi, c'est la pression extérieure à la conformité genrée. C'est-à-dire que la société attend en fait des femmes qu'elles soient totalement dévouées et celles-ci n'ont guère d'autre choix en fait que de se conformer à ces attentes, ne serait-ce que pour s'épargner les conséquences négatives d'une éventuelle transgression, par exemple, être jugée négativement. L'enquête est assez intéressante, elle montre comment, face à des photos de pièces en désordre ou de pièces rangées, les réactions pénalisent toujours davantage les femmes qui sont critiquées pour ne pas tenir leurs intérieurs propres et en ordre. Et donc, ce dont il s'agit là, c'est, disons, un niveau social, de règles du jeu implicites, qui font que les normes genrées, les rôles de genre se reproduisent. Et c'est quelque chose qui est particulièrement difficile à modifier, puisque ce qu'il faudrait changer, ce sont les représentations communes. Et sur ce terrain-là, il y a des leviers à mettre en place qui ne sont pas faciles.
Mais alors, justement, dans les représentations communes, Camille Froidevaux-Métry, est-ce que cette pandémie n'a pas permis justement de prendre conscience qu'il y avait beaucoup de femmes dans ces métiers dont on s'est rendu compte, si on ne s'en rendait pas compte auparavant, qu'ils étaient déterminants et cruciaux pour, j'ai presque envie de dire, la survie de l'espèce?
Oui, absolument. Alors ça, on en a déjà beaucoup parlé, effectivement. Donc tous ces fameux métiers du care, c'est-à-dire du soin à la personne, on s'est rendu compte que, alors même que nous étions à peu près tous contraints de rester chez nous, eh bien il y avait une armée de femmes. Oh, zut, j'ai employé ce terme un peu viriliste, donc je retire. Disons, il y avait des millions de femmes, des cohortes de femmes qui assuraient tous ces métiers, notamment du soin, mais aussi des métiers de service, comme ceux de caissière, et qui ont été obligées de continuer à travailler au risque de leur santé, parfois même au risque de leur vie. Donc ça, c'est un élément important. Et donc, il est crucial de dire qu'on ne va pas se contenter pour ces femmes de prime, comme c'est le cas déjà pour ce qui est de l'hôpital et aussi des grands groupes de la distribution commerciale. Pour l'hôpital, on sait que ces personnels étaient mobilisés depuis plus d'un an quand la crise a éclaté pour réclamer des revalorisations de salaire et des hausses d'effectifs. Il va falloir que le point d'indice de la fonction publique hospitalière, qui est gelé quasiment sans interruption depuis 10 ans, soit réévalué. Et de la même façon, pour les femmes qui exercent ces métiers qui nous ont été si importants, notamment les caissières, là aussi, le système des primes doit être accompagné. Enfin, il faut quelque chose de bien plus pérenne. Et je voudrais dire ici, parler de ce scandale qu'a révélé une enquête de Mediapart récente, que les grands groupes qui ont fait des profits inouïs pendant cette période et qui avaient annoncé de façon peut-être active des primes distribuées à leur personnel, eh bien sont tous en train de rétropédaler, d'introduire des nuances, par exemple le fait de distribuer ces primes au prorata du temps travaillé ou d'y substituer des bons d'achat. L'enquête montre que les Auchan, Carrefour, Leclerc, Intermarché, il n'y a pas un grand groupe qui, d'une façon ou d'une autre, trouve des moyens finalement de ne pas rétribuer le dévouement de ses personnels. Moi, j'attendrai d'eux au minimum, au contraire, qu'ils haussent les salaires. Il faudrait peut-être une volonté politique forte. J'ai malheureusement quelques doutes sur sa possibilité.
Dans tous les métiers que vous évoquez, dans les métiers du care, et les métiers de la grande distribution, et il y a eu un lien qui a souvent été souligné, Camille Froide-Vaumétrie, entre la féminisation de ces métiers et leur niveau de rémunération. Est-ce que les choses peuvent changer désormais ?
Alors, c'est un mécanisme qui est là aussi difficile à modifier puisqu'il est profondément ancré dans les mentalités. On considère que les femmes étant en quelque sorte naturellement disposées à prendre soin des autres et notamment de leurs enfants, elles, quand elles mettent au service du public en quelque sorte cette aptitude aux soins, eh bien, elles ne font pas montre d'une quelconque compétence, mais disons de disposition et d'aptitude quasi innée, et donc il n'y a pas raison de rétribuer outre mesure ces professions. Là aussi, évidemment, on peut espérer une forme de revalorisation, notamment sociale, mais aussi salariale. Je voudrais aussi associer au métier qu'on a déjà évoqué, le métier d'enseignante. Alors, parce que ces enseignantes qui ont arrêté de travailler, on s'est rendu compte, notamment les parents qui ont dû faire à leur place le travail éducatif, à quel point leur travail était important, à quel point il était difficile aussi. Et ce sont elles aujourd'hui qui se retrouvent à devoir, là aussi, de façon contrainte, retourner à l'école. Et on a vu que les conditions étaient loin d'être réunies pour que tout cela se passe de façon la plus rassurante possible pour tous ces personnels. Et c'est là encore des métiers très mal rémunérés. Là encore, un point d'indice gelé depuis des années et des années. Il y a quelque chose quand même qu'il faudra réfléchir collectivement, à savoir comment prendre en compte l'apport de toutes ces professions ultra féminisées dans notre vie quotidienne, dans notre survie même, et tous ces métiers qui ont en commun d'ailleurs, c'est quelque chose d'intéressant à observer, qui a été si important pendant la crise, ils ont en commun de faire le lien entre les personnes. C'est pas seulement, si vous voulez, fournir des services, vendre des produits de consommation, etc., mais c'est aussi au quotidien, tenir ensemble les gens par la force des émotions, par la force des sentiments. Et il y a une notion dont on a aussi parlé qui s'est révélée pendant ce confinement et que je trouve importante, qui est la notion de charge émotionnelle. C'est-à-dire que cette idée, alors là aussi c'est toujours la même logique, les femmes ayant été socialisées à prendre soin des autres sont considérées comme majoritairement responsables du bien-être émotionnel de leurs proches, que ce soit à l'intérieur de la famille, on rassure, on console, on fait le lien entre les générations, mais aussi pour tous ces métiers du soin, donc je pense aux infirmières et aux aides-soignantes ou auxiliaires de vie, qui sont des professions dont on attend qu'en plus de leur travail quotidien particulièrement difficile pendant cette crise, elles assurent par des mots et des gestes adéquats le bien-être émotionnel des patients et des personnes âgées. Oui. Il faut s'attendre, je crois, à un phénomène de grand épuisement physique, bien sûr, mais surtout psychique et morale de toutes ces femmes dans ces métiers qui leur ont demandé tant pendant la crise.
Vous voulez dire que c'est une charge supplémentaire, cette charge émotionnelle qui pèse particulièrement sur les femmes, qui pèse sur les femmes dans la sphère domestique, mais aussi peut-être à l'extérieur, Camille Froidevaux-Métry?
Oui, parce que on sait très bien que les filles sont éduquées et socialisées pour être gentilles, pour prendre soin des autres, et elles ont en quelque sorte intériorisé cette aptitude ou cette disposition à l'empathie, en quelque sorte. Alors, je ne veux pas essentialiser et généraliser, hein, la sollicitude et la tendresse peuvent être tout à fait des qualités masculines, mais il se trouve que d'abord, ces métiers du soin sont, on l'a dit, ultra majoritairement féminins, et puis il se trouve aussi que, eh bien, lorsqu'elles sont dans la sphère domestique, c'est bien des conjointes et des mères, hein, dont on attend qu'elles gèrent en quelque sorte les émotions de leur petit groupe familial. Et effectivement, cette charge, elle se surajoute, alors, à la charge domestique, dont on sait très bien qu'elle a été démultipliée pendant le confinement, hein, à la charge parentale, qui, elle aussi, a été augmentée de la charge éducative, à la fameuse charge mentale, hein, cette disposition à anticiper et organiser les besoins des autres. Et puis, si on ajoute à tout ça le fait que bien des femmes ont dû continuer de travailler à la maison, ça fait beaucoup.
Oui, et ça fait trop, même, selon vous.
Oui, je pense que ça fait trop, et je pense que, enfin, j'ai vu quelques appels dans le monde de la santé psychique et psychiatrique qui alertaient sur la nécessité d'anticiper en quelque sorte des phénomènes, on va dire, de burn-out ou d'épuisement, que ce soit pour des femmes qui sont restées à la maison ou des femmes qui ont exercé ces métiers si intenses pendant la crise. Là encore, le problème, c'est que comme on considère que c'est quelque chose en quelque sorte qui va de soi, hein, que les femmes soient gestionnaires des émotions, eh bien, on aura tendance probablement à ne pas prendre en compte et à ne pas se soucier en quelque sorte du malaise et voire même davantage que vont subir ces femmes progressivement en sortie de crise, hein, parce que pour l'instant, on le voit bien. Tout le monde tient, et notamment elle. Mais quand tout ça va se relâcher peu à peu, eh bien, je redoute un peu les conséquences sur la santé mentale, en quelque sorte, de toutes ces femmes.
L'autre grande crainte, Camille Froidevaux-Métry, sont les violences domestiques contre les femmes, contre les enfants aussi. Qu'en est-il, que pouvez-vous dire à ce sujet ?
Oui, alors la crise, là aussi, a jeté comme un coup de projecteur. Hein. On a pu, les chiffres n'ont cessé d'augmenter. On est à quelque chose comme 40% d'augmentation des interventions pour violences conjugales et intrafamiliales. Alors, ça concerne à peu près 200 000 femmes en France et beaucoup plus d'enfants encore. Alors, c'est évidemment un souci. Ce qu'a montré la crise, notamment, c'est que parmi les dispositifs qui sont généralement mis en œuvre, certains devaient peut-être être travaillés davantage. Ça fait un certain temps que l'on réclame que ce soit les hommes, hein, les violents conjugaux, qui soient contraints de quitter leur domicile et non pas les femmes, hein, parce que dans une espèce de terrible double peine, souvent ce sont elles qui doivent partir. Et donc on a vu quelques appels à l'organisation de ce qu'on appelle la décohabitation des violents conjugaux. J'espère que cette urgence nationale, hein, des violences conjugales, et j'ajouterais des féminicides qui n'ont pas cessé durant toute la crise, reste une priorité du ministère en charge. J'espère aussi que nous allons continuer dans le champ de féministes notamment, hein, de rester mobilisés. Quand la crise a survenu, nous étions dans une période, disons, d'assez intense dynamique de mobilisation féministe sur pas mal de sujets, notamment sur cette question des violences sexuelles et des violences conjugales. Voilà, il est très très important que nous restions mobilisés, il est très très important que nous réfléchissions à quelque chose comme un agenda féministe de sortie de crise. Alors, sur cette question des violences, mais sur bien d'autres aussi, hein, je voudrais souligner le fait que, d'un point de vue économique, ce sont les femmes qui sont encore les plus vulnérables. Durant cette crise, je pense notamment à toutes celles qui se sont trouvées très brutalement privées de revenus, les assistantes maternelles et les femmes de ménage, dont certaines travaillaient souvent au noir. Je me pose la question de savoir si les femmes qui les employaient pour pouvoir, elles, aller travailler et qui donc pouvaient compter sur elles pour s'occuper de leurs enfants et de leur ménage, est-ce qu'elles ont continué à rémunérer ces femmes? Je pense que ça n'a pas été souvent le cas. On a bien vu ces phénomènes de queues sans fin qui s'étiraient devant les stands de distribution d'aide alimentaire. Là aussi, il y a une immense vigilance à observer pour ce qui est des conséquences économiques qui vont frapper très durement les femmes. On a pu voir lors de la crise de 2008 que c'était des métiers majoritairement masculins qui avaient été frappés le plus durement, les emplois industriels notamment. On sait et on anticipe d'ores et déjà que cette crise-là, elle va toucher les femmes principalement, par exemple dans le secteur du tourisme, l'hôtellerie où il y a 84% d'employés féminines. Tous ces métiers qui sont vraiment les plus durement touchés, comment vont faire ces femmes pour retrouver des emplois? Comment vont faire, par exemple, les mères célibataires qui sont extrêmement nombreuses et notamment à exercer des temps partiels? 30% des femmes exercent des emplois à temps partiel, souvent des mères célibataires. Comment peuvent-elles retourner au travail alors même que leurs enfants ne sont pas retournés à l'école eux-mêmes? Enfin, il y a une infinité de cas. Je crois qu'il y a une urgence féministe à penser, à anticiper la situation de toutes ces femmes si durement touchées.
Alors précisément, Camille Froide-Vaumétry, comment cette crise pourrait-elle permettre d'améliorer ou bien de repenser la place des femmes dans la société?
Alors je crois qu'il y a d'abord quelque chose, un combat qui est sans doute le plus difficile, puisque comme je le disais tout à l'heure, il s'agit d'essayer de modifier en profondeur les représentations communes. C'est cette question des rôles genrés, c'est-à-dire comment faire pour que l'égalité dans la sphère domestique soit autant valorisée que l'égalité au travail. Il y a certaines enquêtes qui montrent, c'est une sorte de paradoxe, on valorise davantage l'égalité au travail et donc on fait aussi davantage pour l'égalité au travail que pour l'égalité à la maison. Et parmi les ressorts qui me paraissent importants, il y a cette question récurrente du congé paternité, qui est, comme on le sait, dramatiquement court en France, 11 jours seulement. Et là encore, les études sont formelles. Plus les pères ont l'occasion de bénéficier d'un congé paternité long, plus leur investissement parental par la suite sera important, parce que ça permet en quelque sorte la mise en place d'une routine paternelle. On a des exemples tout proches de nous, comme l'Espagne, qui vient d'instaurer une augmentation notable de ce congé paternité, qui est passé à 8 semaines, avec même un objectif de 16 semaines pour 2021, rémunéré à 100%. Je crois qu'il est grand temps qu'en France, on se saisisse de cette question, de ce congé de paternité qui est ridiculement court. Et donc, c'est ainsi qu'on pourra jouer sur les modifications dans les représentations communes, sur les rôles genrés, et qu'on pourra peut-être commencer de mettre en place ou en tout cas de rendre possible une meilleure répartition des tâches domestiques et parentales.
Mais c'est ça un peu justement le paradoxe que vous évoquiez, Camille Froide-Vaumétry. Il y avait une dynamique avec une mobilisation très forte et puis cette pandémie est arrivée. On a l'impression qu'elle a tout emporté alors même que les femmes y ont joué le rôle que vous décriviez On ne sait pas aujourd'hui s'il est possible de faire revenir d'autres sujets, les sujets qui étaient sur la table auparavant, si cette pandémie va tout emporter pendant les semaines, on peut le craindre, ou celle-ci va se poursuivre. Comment faire justement pour que ça ne devienne pas un événement unique qui écrase tout le reste?
Oui, alors il y a de quoi s'inquiéter en effet, parce que parmi les phénomènes aussi qui ont été relativement flagrants durant la crise, il y a cette question de la surmasculinisation de l'expertise, de la parole médiatique, de la présence médiatique aussi, y compris sur des sujets qui concernent au premier chef les femmes. Là aussi, c'est quelque chose dont on aurait pu espérer que ce ne soit pas à ce point criant, mais bon, on a vu passer un certain nombre de réunions composées exclusivement d'hommes, y compris un plateau télé dédié à la question justement des femmes dans la crise, où il n'y avait que des hommes sur le plateau. Bon, ce type d'aberration doit cesser. Là aussi, tout se joue en termes de mobilisation. Donc, récemment, j'ai été très heureuse d'observer qu'un certain nombre de femmes de gauche avaient décidé de s'organiser et de tenir une forme de meeting virtuel pour justement travailler et réfléchir ces problématiques des droits des femmes en sortie de crise. Il s'agit simplement d'essayer de créer une dynamique de façon à ce que nos bonnes volontés et nos revendications ne soient pas effectivement recouvertes par tout le reste. Alors, on a en France un ministère dédié, c'était la grande cause du quinquennat. Là encore, il faut espérer que ce ne sont pas ces questions qui vont faire le frais de toutes les autres priorités.
Et précisément pour que ça ne soit pas uniquement des questions qui soient écrasées par le virus, puisque c'est un peu ce que l'on observe aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas envisager certaines choses ou faire en sorte que, la question des inégalités de genre, je l'ai dit dans les titres de la presse, elles sont très présentes aux États-Unis dans la presse américaine. Oui. En France, on découvre cette question-là. Alors, on la découvre aussi parce que il est toujours compliqué en France d'utiliser des statistiques ethniques, parce que aux États-Unis, on explique que ce sont les minorités qui souffrent principalement de la pandémie. En France, on a une vision plus universaliste, avec du coup des difficultés à appréhender ces questions-là. Est-ce que, par exemple, on pourrait s'inspirer, Camille Froide-Vaumétry, de la manière dont les anglo-saxons traitent ces questions? Est-ce que pour vous, ça n'est pas une bonne méthode?
Bien sûr, mais on le fait déjà. Hein. Il y a beaucoup de chercheuses et de sociologues qui travaillent dans une perspective intersectionnelle, c'est-à-dire qui s'attachent à mettre en évidence le fait que les inégalités femmes-hommes recouvrent aussi les inégalités intra-féminines. Je l'évoquais rapidement tout à l'heure en parlant des assistantes maternelles et des femmes de ménage. La réussite et l'accomplissement professionnel d'un certain nombre de femmes dans notre société a pu se faire grâce au dévouement d'autres femmes hein, qui travaillent parfois en ayant laissé leurs propres enfants dans leur pays d'origine, par exemple. Donc il y a tout un tas de mécanismes d'entremêlement hein, de facteurs de domination, donc la question du genre, mais donc la question aussi de la race, comme on dit désormais, c'est-à-dire que c'est une notion hein, sociologique pour essayer de penser le poids des oppressions croisées sur certaines catégories de femmes. Donc moi je suis, comment dire, c'est pas tellement que nous n'avons pas investi ces questions, hein, notamment sur le plan de la recherche, il y a vraiment un investissement important et des travaux très intéressants qui paraissent. Simplement, effectivement, vous le disiez, il faut un relais médiatique qui soit plus important. Là aussi, je suis relativement, disons, enfin, je vois qu'il y a quand même pas mal de choses qui bougent. Je citerai par exemple cette enquête au long cours menée par une équipe du Monde sur la question des féminicides qui va aboutir très prochainement à la publication d'un numéro spécial. Et il faut se réjouir de ce que cette thématique soit désormais vraiment en première page, en quelque sorte, des journaux. J'ai pu observer aussi que certains travaux récents absolument passionnants, comme celui qui concerne la question du patrimoine, qui est très inégalement réparti là aussi dans une perspective genrée, c'est-à-dire que non seulement les femmes possèdent moins de patrimoine que les hommes, mais que ce fossé s'est accentué dans le temps, hein, c'est ce que montre l'ouvrage Le genre du capital de Céline Bessières et Sybille Golac. Donc voilà, après c'est une question effectivement de volonté médiatique, hein, de mettre en lumière ces sujets genrés. On ne manque pas d'études, on ne manque pas de travaux, ni de recherches, ni d'ailleurs d'engagement et de militantes, mais il faut leur faire effectivement une plus grande place dans les médias, ça c'est une certitude.
Merci beaucoup Camille Froide-Vaumétry d'avoir accepté notre invitation ce matin pour évoquer la manière dont la question féminine a été modifiée, peut-être occultée pendant le confinement. Je rappelle le titre de deux de vos ouvrages, La révolution du féminin, c'est chez Gallimard, et Saint, en quête d'une libération, c'est un livre qui est paru aux éditions Anna Mosaï.